Chapitre 27. Elle descendit lentement la côte, réfléchissant à ce qui venait de se passer et ne s'épargnant pas les reproches pour la grosse faute qu'elle avait eu la maladresse de commettre en abandonnant le marquis. Son tort, surtout, avait été de juger Louis avec dédain. Lorsqu'il était descendu de la diligence, elle n'aurait pas dû continuer tranquillement sa route, s'en aller à Bagnoles d'abord, puis à Paris ensuite. Mais il n'était pas dans son caractère de récriminer, pas plus contre elle-même que contre les autres. Ce qui était fait, était fait. Elle regardait toujours en avant, jamais en arrière. Maintenant, ce qu'il fallait, c'était examiner froidement la situation qui lui était faite et trouver un moyen pour en sortir à son avantage. Car d'abandonner la partie, elle n'y avait même pas songé. Elle entra dans l'auberge qui est au bas de la côte et se fit donner une chambre au grand ébahissement de l'aubergiste et de sa femme. Pourquoi quittait-elle le château? Le marquis la renvoyait-il? On courut de porte en porte dans le village pour se communiquer cette grande nouvelle et ce furent des exclamations sans fin. Au beau milieu de cette émotion, on vit le fils de l'aubergiste, gamin de 12 à 13 ans, sortir de la maison et prendre la route du château en marchant rapidement. On l'arrêta. Il allait à Rudemont porter une lettre à M. de Carquebus. Il avait ordre de ne la remettre qu'à lui seul. Si on l'empêchait d'entrer au château, il devait guetter la sortie de M. de Carquebus et alors s'acquitter de sa commission. Il n'eut pas à monter jusqu'au haut de la cavée. À moitié route à peu près, il rencontra M. de Carquebus, qui descendait à grands pas, l'air furieux, jurant comme un possédé après les cailloux qui roulaient sous ses pieds. Il lui tendit la lettre sans rien dire. « Je n'ai pas le temps de m'arrêter. Livre-moi passage, mauvais garnement !» cria M. de Carquebus. Mais, sans se laisser déconcerter, l'enfant dit que cette lettre était de Madame Clémence, et alors M. de Carquebus, s'arrêtant instantanément, la prit et la lut. Elle ne contenait que 4 lignes. « Aussitôt que cela vous sera possible, veuillez, je vous prie, descendre à l'auberge du bas de la côte où vous me trouverez. J'ai un service à vous demander. Clémence. »« Cours, dit M. de Carquebus, et annonce que j'arrive. » Un service à lui demander. Ces quelques mots changèrent son humeur. Averti par Valérie de ce qui s'était passé entre Louis et Clémence, il s'était promptement habillé pour rejoindre celle-ci dans le village où il espérait bien la rencontrer. Mais tout en descendant la cavée, il était assez inquiet de l'accueil qu'elle allait lui faire. N'allait-elle pas lui reprocher d'avoir laissé Louis s'introduire auprès du marquis? Sans doute, il avait lutté pour l'empêcher. Mais se contenterait-elle de cette affirmation? Il n'était pas facile de discuter avec elle et, à vrai dire, il avait peur d'une discussion. Mais en voyant qu'elle avait besoin de lui, il se rassura et, au lieu de songer à la défense, il se prépara à l'attaque. Pourquoi avait-elle eu la maladresse de s'éloigner? Aurait-elle dû laisser le marquis seul? Ce fut la tête haute qu'il entra dans la chambre où Clémence l'attendait. « Eh bien, s'écria-t-il dès la porte, voilà vraiment une belle affaire. Franchement, je vous croyais plus fine que cela. Comment vous vous en allez et vous n'avez pas la précaution de vous arranger pour que Louis ignore votre voyage ?» Elle était assise auprès d'une table en bois blanc et elle se tenait le bras appuyé sur cette table. En entendant cette apostrophe, elle ne bougea pas. Enhardi par ce silence, M. de Carquebus continua. Et comment vouliez-vous que nous défendions la porte du marquis? Valérie l'a essayé. Moi, j'ai été jusqu'à menacer ce magistrat de le jeter par la fenêtre. Mais tout a été inutile. Maintenant, le voilà installé dans la place et vous, vous êtes dehors. Avouez que vous n'avez que ce que vous méritez. Je l'avoue. Et tout est dit, n'est-ce pas? Allons, je vous croyais plus intelligente que cela et surtout plus résolue. Vous avouez la belle affaire. Je croyais que les femmes n'avouaient jamais. Peu à peu, il s'était excité et il était tout à fait furieux. Il eût volontiers battu. Ah, je me suis bien trompé sur votre compte. Vous avouez, vous avouez. Qu'est-ce que ça me fait? Je me soucie bien de votre aveu. Il ne fallait pas faire la bêtise de vous en aller. Vous n'auriez pas à avouer maintenant. J'avais mis ma confiance en vous et vous l'avez trompée. Est-ce que, si j'avais cru que vous nous laisseriez surprendre, je n'aurais pas pris mes précautions? Il n'aurait pas approché du château, je vous le promets. Mais non, je dors tranquille et avant qu'on soit réveillé, il nous prend au lit. Tout ça, c'est votre faute et vous ne dites rien. J'attends que vous ayez fini. Eh bien, vous attendrez longtemps. Si c'est comme ça que vous espérez devenir ma femme, vous faites fausse route, c'est moi qui vous le dis. Après ce qui s'est passé, vous comprenez que je ne reste pas engagée. Vous sentez ça, n'est-ce pas? Mais que s'est-il passé? Ce qui s'est passé entre Arthur et Louis, je n'en sais rien, les portes étaient fermées. Ce qui s'est passé entre le docteur Gilles d'abord, puis ensuite entre Arthur et le bonhomme Marbeuf. Ah! Le docteur Gilles et M. Marbeuf sont venus à Rudemont? Parbleu, Louis a été les chercher pour s'appuyer sur eux. Ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait, je ne le sais pas. Mais vous voyez le résultat, Louis vous a fermé la porte sur le nez. Aussi, je vous avertis que dans ces conditions-là, il n'y a plus rien de promis entre nous. Si, au lieu de baisser la tête, vous aviez eu le courage de vous défendre, j'aurais peut-être pu vous pardonner. Mais non, vous vous contentez d'avouer. Tenez, vous me faites hausser les épaules. Vous, c'est vous que je retrouve en cet état. Voyons maintenant, qu'est-ce que c'est que ce service que vous avez à me demander? Ce n'est pas un service d'argent, au moins. Je vous préviens que je n'ai pas un sou à moi en ce moment, ne comptez donc pas sur moi de ce côté. Il ne s'agit pas d'argent. Alors, tant mieux, nous pourrons probablement nous entendre. Je suis malgré tout disposé à vous obliger. C'est précisément de cela qu'il s'agit. Comment cela? Je voudrais vous prier de faire mettre dans une malle les robes et le linge qui se trouvent dans une armoire dont je vais vous donner la clé et de m'adresser cette malle à Paris, en gare. Et c'est pour cela que vous m'écrivez, s'écria M. de Carquebus en poussant des exclamations. C'est à cela que vous pensez en ce moment? Mais sans doute, j'avais espéré que vous ne me refuseriez pas ce service. Si c'est trop exigé de vous, je vais écrire à Valérie. Écrivez au diable, si vous voulez. Alors, vous me refusez? Non, mais je suis tellement stupéfait de votre résignation que je ne sais plus ce que je dis. Ainsi, c'est entendu. Vous voulez bien vous charger de me faire faire cette malle et de veiller à ce qu'elle me soit expédiée aujourd'hui même. Vous n'aurez pas besoin de prendre des précautions pour que M. Louis ignore cet envoi. Je désire même qu'il le connaisse et qu'il sache bien que je suis parti pour Paris. Alors, vous partez vraiment? Et que voulez-vous que je fasse? On ferme la porte devant moi, je ne puis pas l'enfoncer. On se remue au moins, on cherche. Pour cela, il faut n'être pas lasse, et pour moi, je suis à bout de force et abreuvé de dégoût. Le vase était plein, vous venez de le faire déborder par vos reproches. Je renonce à aller plus loin. Vous partagerez l'héritage d'Arthur avec votre neveu si Denise ne se fait pas donner tout. Immédiatement, M. de Carquebus se radoucit et se fit bonhomme. Voyons, dit-il en lui prenant les mains. Il ne faut pas jeter ainsi le manche après la cognée. Si je vous ai dit quelque chose de blessant, il ne faut pas vous en souvenir, c'est que j'étais en colère. Mais le fond est bon et vous savez bien que malgré tout, vous serez ma femme. Allons, ma petite femme, ne désespérons pas. Surtout, ne partez pas. Que voulez-vous que je devienne si vous m'abandonnez? Vous savez bien que je vous adore, car il n'y a pas d'autre mot, je vous adore et foi d'honnête homme, vous serez Madame de Carquebus. Voyons, cherchons ensemble comme deux amis. À deux, on trouve de meilleures idées. Et que voulez-vous trouver? Votre neveu ne quittera le château ni jour ni nuit jusqu'à l'arrivée de Denise, et une fois que celle-ci sera revenue, le mariage sera fait. Pourquoi êtes-vous parti? Voyez-vous en moyen de me faire pénétrer auprès du marquis aujourd'hui même? Non, Louis s'est installé dans la bibliothèque pour la nuit et dans la journée, il reste auprès d'Arthur. Alors, que voulez-vous que je fasse? Je ne sais pas, mais il me semble que, si vous cherchiez bien, vous inventeriez quelque chose. Je cherche. En effet, elle parut s'absorber dans une méditation profonde, tandis que M. de Carquebus tambourinait avec ses doigts sur la table. Au bout de quelques instants, elle releva la tête. « Il y aurait bien un moyen, dit-elle, mais il est si ridicule que je n'ose même pas en parler. » « Dites, dites toujours, rien de ce qui germe dans cette jolie petite tête-là ne peut être ridicule. » Il faut tout mon désir de vous montrer que je veux me dévouer à vous jusqu'à la fin pour que je me sois arrêté à une pareille idée. Mais dites-la donc. Si Monsieur Louis s'est installé pour la nuit dans la bibliothèque, il n'y a donc que par les fenêtres qu'on peut pénétrer chez le marquis. Eh bien, il faudrait qu'une de ces fenêtres reste ouverte cette nuit. En fermant ce soir, il faudrait qu'on tirât seulement les volets de la fenêtre qui donne à la tête du lit du marquis et qu'on ne mît pas les crochets. Quant à la fenêtre, on la pousserait sans tourner la crémone. Alors, vers 11h30, quand le marquis serait couché et que votre neveu se serait retiré dans la bibliothèque, j'entrerai par là. L'enjambée n'est pas haute. Une fois dans la chambre du marquis, je m'expliquerai avec lui, après avoir commencé par fermer à clef la porte qui communique avec la bibliothèque, bien entendu, et peut-être me serait-il possible d'être pour votre neveu ce qu'il a été pour moi. « Vous êtes un ange !» s'écria M. de Carquebute. « Oui, ma petite déesse, un ange. La fenêtre sera disposée comme vous le dites, comptez-y. Si je ne l'arrange par moi-même, je la ferai arranger par Valérie. » À 11h30, vous n'aurez qu'à tirer les volets, ils viendront facilement. Votre idée est excellente. Vous voyez bien que j'avais raison de vous dire qu'en cherchant, nous en sortirions à notre avantage. Ah, je donnerais bien quelque chose pour voir la figure de Louis quand vous ouvrirez la porte de la bibliothèque. Et qui sait si je ne serais pas obligé de sortir comme je suis entré, par la fenêtre? Allons donc! « Et qu'allez-vous faire d'ici ce soir ?»« Prendre une voiture et me faire conduire à la station, car pour tout le monde, pour votre neveu surtout, il faut qu'il y ait certitude que je suis parti pour Paris. Aussi, je compte sur vous pour me faire expédier cette malle très ostensiblement. »« Vous voulez persister dans cette idée ?»« Plus votre neveu se croira en sûreté, plus j'aurai de chances pour réussir. » Et puis, sa figure, comme vous dites, n'en sera que plus drôle si je parviens à lui rendre la monnaie de sa pièce. Vous y parviendrez, mon petit ange, et foi d'honnête homme, vous serez Madame de Carquebute.